Dieu vous bénisse. Donc le frère Franco parle d'un livre qu'il avait depuis les années 70 qui s'appelle Les Satages de l'Église, signé du frère Branham, mais en fait c'était pas le frère Branham qui l'avait écrit. C'était l'Ivail, donc il voit qu'il a, regardez avec tout le temps qui a passé, regardez tous les pièges par lesquels il est passé. Comme si c'était frère Branham qui avait prêché. Donc ça a induit beaucoup de personnes en erreur. Dieu bénisse. Donc un livre comme ça fait beaucoup de confusion. Donc déjà dans les années 70, quand on descendait en Italie, en France, en Belgique, on disait déjà que c'était Livelle qui avait écrit ça et pas frère Branham. Et pourtant, vous voyez, une fois que la semence est semée, une fois que le mensonge est semé, vous voyez. Donc automatiquement, ces choses-là restent, demeurent. C'est incroyable. C'est pour dire que les choses qui ne sont pas bonnes, on dirait que ça reste plus longtemps que les choses bonnes. Voilà, nous allons commencer. Peut-être qu'ils vont venir après. Ils vont peut-être venir après. Donc, si jamais vous laissez une demande, j'ai une question. Si vous laissez le micro, alors on entendra tous les bruits alors. C'est juste pour avoir des amens ou quelque chose comme ça. Voilà, on peut commencer. Aujourd'hui, on va finir tôt. Je voudrais lire quelques versets des Écritures. Alléluia. Nous allons incliner nos têtes et nous allons nous présenter devant le Seigneur. Doriano, est-ce que ta maman est là? La maman vous salue tous. Dieu la bénisse. Alléluia. Seigneur notre Dieu, merveilleux Père Céleste, nous te sommes reconnaissants de nous présenter devant toi. Il est vrai que c'est comme un écran qui nous sépare, qu'on a ici, mais les frères sont réels et toi tu es aussi réel. L'Esprit est réel. Voilà pourquoi nous louons encore ton nom, ce merveilleux nom du Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur de nos âmes. Et encore ce soir, tu vas nous bénir. Tu vas bénir nos âmes parce qu'elles ont soif et faim de toi. Tu vas bénir nos vies parce qu'elles veulent toujours être devant ta face, indépendamment de l'influence extérieure. Mais c'est toi, Seigneur, le chef, qui connaît le cœur, l'esprit, l'âme. Et c'est toi qui tiens dans tes mains nos âmes. Tu es le gardien de nous tous. Merci d'être présent encore ce soir. Merci de nous faire aller dans ton règne. Merci de donner la force de continuer dans le chemin et de pouvoir comprendre tout ton plan merveilleux que tu as étendu pendant tous ces siècles et ces millénaires qui sont passés. Et maintenant, on arrive à la fin. Et tu as tout expliqué à travers ta parole révélée. Merci Seigneur. Bénis nos âmes, nos cœurs. Bénis ceux qui sont absents. Bénis ceux qui écoutent. Tu connais le besoin des cœurs et tu ne manques jamais de pourvoir et de fournir, de pourvoir aux besoins. Et nous savons encore que ce soir, tu vas toucher nos cœurs, nos pensées, nos vies. Nous t'adorons, nous te remercions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Amen.
On a lu jusqu'à la page 16 sur le nicolaïsme. On n'a pas lu le dernier paragraphe. Donc, on va reprendre ce qu'on avait lu avant. Donc, vous avez bien compris ça. On sait maintenant qu'on va parler de Constantin, on va parler de l'union, on va parler du balamisme, on va parler de cette union, du concile aussi qui est venu par après. Donc on va partir de là. Et on va voir où le Seigneur va nous guider. La chose principale qu'il faut retenir, donc c'est cette tâche de l'Église, chapitre 10, page 362, on parle de la réunion tous ensemble. Une réunion d'ensemble. Donc je voulais savoir ce que ça signifiait. Donc l'Église catholique. Vous pouvez prendre aussi donc une définition de l'Église catholique. Donc c'est comme une réunion tous ensemble, une réunion complète tous ensemble. Et surtout, ils étaient tous ensemble. Et cette chose d'être tous ensemble, donc dans le sens d'être tous ensemble, ça vient de cette union-là, qui a été faite par Balaam, avec Balaam et les chefs religieux, et tous les autres. Parce qu'ensuite, le pouvoir passe entre les mains de Jézabel. Et c'est elle qui a continué à fournir les enseignements. Et on va voir tout cela. Et on va lire à partir du premier, la ligne avec Constantin. Constantin avait invité les chrétiens de nom, les chrétiens, la première église de Rome, pour inviter les vrais chrétiens. Donc, Constantin avait donc invité l'église chrétienne de Nantes, la première église chrétienne de Rome, à l'aider à rassembler derrière lui les chrétiens qui représentaient un groupe très important. Le résultat fut le concile de Nicée de l'an 325. Les vrais chrétiens et les chrétiens de Nantes s'y réunirent, invités par Constantin. Les vrais chrétiens n'auraient même pas dû se rendre à cette réunion, malgré tout ce que Constantin a pu faire pour les amener à tous s'unir. Donc les vrais chrétiens sont restés des vrais chrétiens. Malgré tout ce que Constantin a pu faire pour les amener à tous s'unir, les vrais croyants savaient qu'ils n'étaient pas à leur place. Et ils sont partis. Mais à ceux qui sont restés, Constantin donna accès au trésor de l'État et au pouvoir politique et physique. On apprit aux gens à adorer des idoles et à pratiquer le spiritisme. En effet, on plaça dans les édifices des statues portant le nom des saints et on enseigna aux gens à communier avec les morts et à prier les saints, ce qui n'est ni plus ni moins que du spiritisme. Voilà. Ça, c'est ce qu'on voit maintenant de l'Église catholique. Ce que je veux dire, au début, c'était comme ça. Là, le début, le commencement de l'Église catholique. Et ensuite, on voit cette expression « tous ensemble ». Donc, je voudrais rentrer dans cette parole importante. Parce que quand ils étaient tous ensemble, ils ont commencé à apporter des arguments, ils ont commencé à essayer de convaincre. Le bon sens, à ce moment-là, a prévalu sur la parole. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà pourquoi les choses folles. Quand on voit dans 1 Corinthiens. Les choses folles. Les choses folles. Du monde. Donc les choses sages du monde, c'est de la folie pour l'homme, pour Dieu, pardon. Et les choses soi-disant intelligentes, c'est des choses folles pour Dieu. Les choses sages du monde, c'est la folie pour Dieu. Dieu a mis un cœur de mettre l'accent sur ceci. Donc j'avais pris note ici d'une chose. Ça poussait les gens à faire leur propre volonté. Donc leur propre volonté, pas celle de Dieu. Donc en parenthèse. Donc l'autre jour, j'avais dit que au lieu que tout le monde parle dans la cacophonie, il faut que ça parle, mais je voulais dire que il faut avoir un serviteur de Dieu qui parle. Je parlais du frère Franck. Et de tous ceux qui parlent avec l'Esprit de Dieu, pas l'homme en tant que tel, un homme. Pour guider une église. Donc c'est la parole de Dieu. Donc c'est ça que je voulais dire. C'est l'Esprit de Dieu qui doit parler. Donc ils se sont éloignés de la parole de Dieu. Il faut qu'un chrétien garde la vraie position. Comme Pierre a dit, c'est quoi qui est plus juste? Comme le Seigneur a dit, c'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui sont justes, mais c'est tous ceux qui font la volonté de mon Père. Donc, vous voyez, il faut revenir à cette position, parce que la volonté de Dieu, c'est ça. Donc je voulais m'arrêter là-dessus, parce que c'est important. Je voulais lire avec vous un Romains 12. Parce que des fois, on prend notre propre volonté pour la volonté de Dieu. Mais qu'aujourd'hui, ce soit un enseignement pour nous tous. Et que ça puisse être scellé dans nos cœurs. Quelle est la place principale devant Dieu? Qu'est-ce qu'on doit faire devant Dieu? Comment connaître sa propre volonté et faire la volonté de Dieu? Indépendamment du bon sens. Indépendamment de ce que je pourrais penser être juste. Même dans une position où soi-disant tout le monde serait d'accord. Si on prend par exemple avec le roi Acab, par exemple. Donc il y avait ce Miché, il y avait 400 prophètes. Oui, tous d'accord, ils étaient tous d'accord. Mais le seul qui était en désaccord, c'était Miché. Et Acab, il dit, mais il dit toujours des mauvaises choses sur moi. Il en a toujours contre moi. Toujours contre moi. Vous connaissez cette histoire. Hein? Il dit, allez, toi aussi, tu dois dire la même chose que les autres. Vous voyez? C'est important. Cette parole, allez, une réunion œcuménique. Réunion tous ensemble. Mais ça dépend de l'esprit avec lequel tu te relis, tu te lis. Vous voyez pourquoi c'est nécessaire de connaître en profondeur. Maintenant, surtout que maintenant, on est à la fin des temps. C'est bon de savoir la volonté de Dieu, la vraie volonté de Dieu. Pas une permission, pas une volonté permissive. Parce que la volonté, c'est quoi la volonté? La volonté de Dieu, il y en a une seule. Il n'y a pas en réalité une volonté permissive et la volonté de Dieu. La volonté permissive, c'est en fait, c'est la volonté de l'homme. La volonté de l'homme. Parce qu'il n'a pas réalisé, c'est quoi? Il n'a pas compris la volonté de Dieu. Même pour le monde païen, même pour le non-croyant. Il y a une seule volonté, c'est celle de Dieu. C'est celle que Dieu a établie pour guider le commun des mortels. Même si on n'est pas croyant, c'est Dieu, il a une seule volonté. Voilà encore pourquoi on tombe. Et on va continuer un peu plus loin. On va voir ces choses-là. Mais prenez par exemple Krefeld. Vous voyez l'esprit qui commence à rentrer dedans. Même à l'époque, il y avait Frère Fock qui n'avait pas très bien compris à l'époque. Parce que ça semblait juste de mettre en des gens, c'est-à-dire un homme plus une femme ensemble. Ça semblait, oui, on n'y pensait pas, ça semblait normal. Mais devant Dieu, c'était faux. C'était une erreur. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Vous voyez un peu? Donc rentrons un peu dans la chose. On a un petit moment. Que Dieu vraiment nous aide. Ce soir. Et que ces choses restent dans nos cœurs. C'est important. On va commencer avec les Écritures. Vous pouvez prendre vous-même avec une concordance romaine, chapitre 12. Pour commencer. Et puis on va continuer. Donc, quand on parle de volonté permissive, comme par exemple, on le voit avec Balaam et avec d'autres personnes comme ça, avec des serviteurs, des hommes chez nous, un peu dans l'église, un peu partout, vous voyez? Donc il y avait ceux qui étaient dans la pleine volonté de Dieu, comme Paul, apôtre, par la volonté de Dieu. Parce que c'était Dieu qui l'avait établi, c'était ça la volonté de Dieu, c'était pas sa propre volonté, c'était la volonté de Dieu. Et ensuite, Paul l'a écrit, on peut le lire. Donc ça, c'est important. Et encore aujourd'hui, plus important maintenant qu'avant, parce que maintenant, il faut vraiment rentrer dans son plan, de façon que tout ce qui est devant nous reste vraiment concentré dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu. Sinon, on va tous être ballottant. Et on va commencer à s'excuser, à chercher de se défendre, à chercher à se défendre, à s'autodéfendre. Donc, prenons Romains 12. Premier verset. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service intelligent. Et ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement ou de votre intelligence, pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Pour que vous examiniez ou discerniez quelle est la volonté de Dieu. Bonne et agréable et parfaite. La parfaite volonté de Dieu. Voilà pourquoi il y a des frères dans ce concile de Nicée, en 325, on connaît tous l'histoire, on l'a déjà lu, ceux qui avaient entendu parler ce langage-là, leur langage à eux, ils ont senti que ça ne correspondait pas avec la volonté de Dieu. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Alors, ils sont partis. Et ça, c'est vrai. Voilà pourquoi Dieu a toujours laissé un petit groupe. Dieu a toujours laissé un petit groupe. Que le Seigneur bénisse nos cœurs. Parce que nous soyons ce petit groupe. Alors, bien sûr qu'il y a d'autres petits groupes. Mais que nous aussi, nous fassions partie de ce petit groupe que le Seigneur s'est réservé. Comme les 7000 qui n'avaient pas fléchi le genou devant Baal. N'est-ce pas? Amen. La bonne... Donc, quelle est la volonté bonne, agréable et parfaite? Car par la grâce de Dieu, la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de ceux qui sont parmi vous, de ne pas avoir une haute pensée de lui-même, au-dessus de celle qu'il convient d'avoir, mais de penser de manière à avoir de saines pensées. Éphésiens 5, 17. Éphésiens 5, 17. Ça m'a frappé. Parce que, je le répète. Excusez-moi si des fois je répète les mêmes choses, mais soi-disant le bon sens, la logique, le bon sens, que nous qualifions de bon sens. Mais en fait, de bon sens, on n'en a pas. Si ce n'est que ça soit conforme à la volonté de Dieu ou à la parole de Dieu. Sinon, ce bon sens, c'est nul, c'est charnel, c'est humain. Et parfois, on croit que c'est bon. Et on croit que ça coule bien, que c'est bien fluide. Bien sûr, pour un moment. Mais il faut que votre esprit soit renouvelé pour examiner. Mais pour un cœur qui n'est pas renouvelé, ça va, ça coule bien, ça glisse bien. Mais pour un cœur renouvelé, ça ne passe pas. Éphésiens 5, à partir du verset 15. Prenez donc garde à marcher soigneusement, non pas comme étant dépourvu de sagesse, mais comme étant sage, saisissant l'occasion parce que les jours sont mauvais. Amen. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on est vraiment à la fin, où chaque heure qui passe compte? Parce qu'on arrive à la fin. Chaque moment compte. Quand c'est possible qu'il y ait vraiment l'esprit, que vos esprits se tournent à Dieu. Comme il est écrit, travaillez pour votre salut, pour votre rédemption. Il faut travailler à cela. Parce qu'on est vraiment arrivé à la fin. Comme il est écrit, saisissant l'occasion, parce que les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Faites attention. Quelle est la volonté du Seigneur en ce moment? Quelle est la volonté de Dieu dans le chemin que je fais, dans ce que nous-mêmes nous faisons? Voyez, il faut rechercher vraiment son approbation. Son approbation. Rechercher son approbation. Être sous son contrôle. Parce que si je fais ma propre volonté à moi, je ne suis pas sous le contrôle de Dieu. Je suis sous un autre contrôle. Par mes sentiments, par le contrôle de mes émotions, de mon intelligence. C'est sous ce contrôle-là que je suis. Et alors là, ce sera difficile de retrouver le chemin pour retourner à Dieu. Sachant que le temps est mauvais. Ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Psaume 143. Psaume 143. Psaume 143, 10. David savait. C'est un homme comme tous les autres. Et dans Jacques, il est écrit, Élie était un homme comme tous les autres. Fait de chair. Seulement que dans cette chair-là, il y avait la foi de Dieu. Il y avait la parole de Dieu. Comme en chacun de nous, et encore ce soir, tous ceux qui croient réellement la parole de Dieu, parce qu'ils sont entrés à faire partie du corps du Christ. Verset 10, « Enseigne-moi à faire ce qui te plaît. » Psaume 143, 10. « Enseigne-moi à faire ce qui te plaît, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise dans un pays uni, dans un pays de droiture. À cause de ton nom, ô Éternel, fais-moi vivre dans ta justice, fais sortir mon âme de la détresse. Et dans ta bonté, extermine mes ennemis et détruis tous ceux qui oppriment mon âme, car je suis ton serviteur. Amen. Alléluia. Enseigne-moi à faire ta volonté. Souvent, on pense qu'on fait la volonté de Dieu. Nous tous, Ici, on ne pointe personne. Il faut pointer le doigt vers soi-même. On pense que c'est automatiquement la volonté de Dieu. On prend pour content que c'est sa volonté. Mais ensuite, on s'en rend compte après, à travers les épreuves qui viennent, parce qu'attention, il y a toujours un prix à payer quand je suis en dehors de la volonté de Dieu. Il y a toujours un prix à payer. Mais l'unique prix qui ne doit pas être payé, c'est l'œuvre accomplie à Golgotha par le sang de Jésus-Christ pour notre salut. Là, il ne faut pas payer pour ça. Mais dans chaque chose, il y a un prix. Vous comprenez? Dans chaque chose, il y a un prix à payer. Malheur à ces personnes-là qui ne se rendent pas compte qu'il y a un prix à payer. Voilà pourquoi Balaam a payé. Balak a payé. David aussi a dû payer un prix. Tout le monde qui sort du contexte de la volonté de Dieu devait payer un prix. Oh, alléluia. C'est comme Krefeld. Il y a aussi un prix qui a été payé. C'est pour faire comprendre qu'en reprenant, en retrouvant le chemin de la volonté de Dieu, ben on voit qu'il y a eu un prix qui devait être payé. Et même aujourd'hui encore, il y a des séquelles. Il y a encore des conséquences aujourd'hui. Voyez comme c'est beau de rester vraiment dans la volonté de Dieu. Un autre passage dans Matthieu 5, verset 9. Matthieu chapitre 5, verset 9. Je me suis arrêté sur ce sujet parce que c'est important pour l'Église, pour mieux, pour la communion, pour le chemin, pour glorifier le Seigneur. Vous voyez, ça c'est important. Donc dans Matthieu chapitre 5. Donc ici, on sait que notre Père sait de quoi nous avons besoin avant même qu'on le dise. Que ton nom soit sanctifié, Père Céleste. C'est Matthieu 6. C'est Matthieu 6, verset 9, où il est écrit. Donc, priez ainsi, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Sanctifié soit ton nom. Pour sanctifier le nom du Seigneur, je dis simplement cela, je dois rester dans sa volonté. Et ça, c'est vrai. C'est une conséquence qui suit. Je ne peux pas me sanctifier par ma volonté, ma propre sanctification, mais je dois rester dans sa volonté pour être sanctifié comme lui le dit, comme lui le veut. La parole sanctifié, ça veut dire mis à part pour servir le Seigneur, pour l'honorer, comme lui le veut. Vous savez, combien de personnes, avec une fausse humilité, ils pensent qu'ils sont sanctifiés et mis à part pour servir le Seigneur, mais ensuite, ils font toute autre chose que ce qu'est la volonté de Dieu. Et ils entrent dans une volonté permissive, disons, la permission de Dieu, au lieu d'être dans la volonté parfaite de Dieu. Et je continue. Matthieu 6, 9, 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, comme dans le ciel aussi sur la terre. Donne-nous aujourd'hui le pain qu'il nous faut, et remets-nous nos dettes, comme nous aussi nous remettons à nos débiteurs. Et ne nous induis pas en tentation. Même le pape, il avait dit quelque chose là-dessus. Je ne sais pas si vous aviez entendu ça. Même lui, il s'est permis de... Il s'est mis à corriger ça. Vous voyez les similitudes, les parallèles? Vous voyez comment le diable est le grand, grand imitateur. Mais il a été menteur et pervers dès le commencement. Dès le commencement. Conduis-nous afin que nous ne tombions pas en tentation. Mais délivre-nous du mal ou du malin. Ça, c'est la juste traduction. La prière journalière. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Fais-nous connaître ta volonté, que ta volonté se fasse au ciel comme sur terre. Il faut. Donc il faut avoir des liens très profonds, justes. Afin que là où le Seigneur est, que moi et toi on soit aussi. On n'a pas été à gauche ni à droite. Là où il y a l'Esprit. Jean 7, 17 aussi. Lisons Jean 7, 17. À partir du verset 16. Jésus donc leur répondit et dit, « Ma doctrine n'est pas mienne, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra de la doctrine si elle est de Dieu, ou si moi, je parle de par moi-même. Celui qui parle de par lui-même cherche sa propre gloire. » Donc je peux dire que celui qui parle de lui-même cherche sa propre volonté, sa propre gloire. C'est sa propre gloire à lui. C'est sa propre volonté. Celui qui veut faire sa volonté, il veut sa propre gloire. Mais la volonté de Dieu, c'est la gloire à Dieu. Amen. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, et il n'y a point d'injustice en lui. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi et nul d'entre vous n'observe la loi? Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? C'est pour vous dire que c'est important de vraiment connaître la volonté de Dieu. Très, très important. Et au rang de la profondeur de ce que Dieu a fait avec chacun d'entre nous. Parce que ce n'est pas la volonté d'un homme ni la volonté de la chair. Attention. Dans Jean 1, 11. Vous voyez? Il vint chez soi, chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui croient son nom, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu. Savoir à ceux qui croient en son nom, lesquels sont nés non pas de sang ni de la volonté de la chair. Attention, hein, quand j'ai reçu ça, j'ai dit, mais c'est vrai. Vous n'êtes pas devenu fils de Dieu par la volonté d'un homme ou d'une église ou d'un système. Vous êtes fils de Dieu par la volonté parfaite de Dieu. Donc c'est un salut parfait. Une rédemption parfaite. Alléluia. Vous voyez? Donc ce n'est pas une blague ou bien une réunion pour parler, dans une réunion tous ensemble, mais c'est lui, Dieu, qui a fait sa propre volonté. Et à travers sa volonté, on est devenu fils et filles de Dieu. Alléluia, c'est merveilleux, amen. Et je crois que vous avez compris ça. C'est important. Donc on ne parle pas de la volonté d'un homme. Voilà pourquoi tout doit être soumis à cette direction de la volonté divine. Donc je répète, il y avait un certain bon sens qui voulait prévaloir sur la volonté de Dieu et qui poussait à faire la volonté personnelle et propre et non pas la volonté de Dieu. Et ils se sont tous éloignés de Dieu à cause de leur propre volonté. Déjà dans cette époque ici. Dans les années 300, avec la première église catholique, qui sont donc partis, sont sortis de la volonté de Dieu. Et encore dernier passage ici, pour le moment, Hébreux 10, vous connaissez tous Hébreux, une parole merveilleuse dans Hébreux 10, qu'on a déjà lu plusieurs fois. Frère Branham, Frère Franck aussi en a parlé beaucoup. Hébreux 10. À partir du verset 5. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, il dit, tu n'as voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas pris plaisir aux holocaustes, ni aux sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens, il est écrit de moi dans le rouleau du livre, pour faire, ô Dieu, ta volonté. On parle du Seigneur Jésus-Christ ici, amen. Mais vous êtes inclus dedans ou vous êtes dehors de cela? Nous, on est inclus dedans. Toi et moi, nous nous présentons, comme on l'a lu dans Romains 12, un sacrifice vivant, à Dieu, afin qu'on puisse accomplir la volonté de Dieu. Amen. Comme Pierre a dit, ni or ni argent, mais ce que Jésus te le donne. Qu'est-ce qu'on peut lui donner, sinon pas nous-mêmes? Nous insérons dans le plan de Dieu et en marchant selon son plan, selon sa volonté. On peut faire des erreurs, bien sûr. Mais on rentre à nouveau, comme David, comme d'autres. Nathan lui a parlé. Il a dit, ah, la brebis, c'est toi. Donc l'homme qui a pris la brebis, c'est toi. Donc voilà, cette histoire que vous connaissez avec Nathan et David. Et alors, il a dû arranger les choses. Voilà le fameux verset, merveilleux verset. Il est mieux de tomber dans les mains de Dieu que tomber dans les mains de l'homme. N'est-ce pas? Comprenez cela? Amen. Il vaut mieux tomber entre les mains de Dieu que de... et de sa justice plutôt que de la volonté de l'homme. Vous voyez, durant ces âges de l'Église, tous les âges se sont développés jusqu'à... et tout a commencé à se décomposer jusqu'à ce qu'il y ait un tout petit peu de lumière à l'époque du frère Branham. Vous connaissez ce dessin-là. Vous connaissez tout cela, hein? Le dessin qu'il a fait sur le tableau. Il ne restait plus qu'un tout petit peu de lumière, un tout petit rayon de lumière, un tout petit reste de lumière. Et au temps du soir, la lumière a été restaurée. Une réconciliation totale, un report total sur le candélabre pour faire briller la parole comme au temps de la Pentecôte. Pour bénir le peuple de Dieu. C'est merveilleux. Amen. Cette parole est importante. Et aussi au 13, toujours Hébreux 10, 13. Et c'est par cette volonté, l'unique, que Dieu nous fasse grâce et qu'il nous donne ce soir, vraiment je le dis de tout mon cœur, qu'il nous donne ça. Pour vous le communiquer, qu'il nous donne cette prise de position pour dire que ta volonté soit faite, pas la mienne. Amen. Comprenez? Que vraiment ça nous imprègne dans tout notre être, dans toute notre âme. Que Dieu utilise, se serve de chacun d'entre nous et qu'on puisse le servir selon sa volonté, pas selon notre volonté. Et qu'on puisse vraiment manifester les choses selon sa volonté, ce qu'il veut, et pas selon ce que nous voulons. Ça, c'est le désir profond de Dieu. Et c'est par cette volonté que nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, faite une fois pour toutes. C'est comme on l'a lu dans Jean. C'est, C'est par la volonté de Dieu, pas par la chair et le sang, mais par la volonté de Dieu qu'on a été fait fils et filles de Dieu. Alléluia. Notre Seigneur est merveilleux. Amen. Donc on croit que dans toutes ces choses, quand on a lu les réunions ensemble, les œcumènes, toute cette définition de la parole catholique. Catholique, ça veut dire tous ensemble. Et voilà l'œcuménisme. Voilà d'où est venu l'œcuménisme. Et voilà où on en est maintenant. Et si on prend Apocalypse 13, vous voyez qu'on est en plein dedans. Alléluia. Vous voyez que tout ce qu'ils sont en train de mettre en action, tous ces rassemblements ensemble, là ils sont forts, là ils sont forts quand ils se rassemblent tous ensemble. Et là ils les mettent tous ensemble parce qu'ils sont de la même race, ils sont du même esprit, la même race. Mais l'épouse ne se pliera jamais à tout cela. Elle ne pourra jamais se plier à cela. Que Dieu nous bénisse. Et bénisse aussi cette méditation, cette étude que nous avons faite sur cette parole importante. Que Dieu... Voilà où est la vraie union. C'est dans la volonté de Dieu. Dans la vraie volonté de Dieu, on trouve la vraie Église. On peut même aller dans les actes pour voir comment ils étaient unis. Vous voyez ? L'unité... Donc vient de la parole qu'il manifeste parmi ses membres. C'est là qu'est l'unité. Sinon, il n'y aura jamais d'unité. Et on continue dans la lecture ici. Page 17 en italien. À la place de la nourriture véritablement nécessaire à l'homme, la parole de Dieu, on leur donna des credos, des dogmes et des rites imposés aussi par l'État. Et pour couronner le tout, on leur fit trois dieux à partir du nom, en trois parties, du seul vrai Dieu. Et le baptême au nom de Jésus-Christ céda la place au baptême païen de trois titres. Père, Fils et Saint-Esprit. J'ai aussi des documents ici, historiques, que je peux prendre. Donc, il est 9h20. Je voudrais vous lire un document que j'ai ici. Voilà, je crois que je l'ai ici. Voilà, je l'ai trouvé. Donc, en parlant du baptême, Encyclopédie catholique, page 263, la formule du baptême a été changée du nom de Jésus-Christ vers titre du Père, Fils, Saint-Esprit par l'Église catholique au XIIe siècle. Joseph Ratzinger, cardinal catholique, qui est devenu pape après, il fait cette confession concernant le texte original trinitaire de Matthieu 28, 19. La forme de base de notre confession de foi a pris forme au cours des siècles, selon le 2e et 3e siècle, et qui touche la cérémonie du baptême. En ce qui concerne l'original, Matthieu 28, 19 provient de la ville de Rome. Le baptême trinitaire et le texte de Matthieu 28, 19 ne vient pas de l'église originelle qui a commencé à Jérusalem vers l'an 33. Incroyable, hein? Même eux, ils savent ce qui s'est passé tout au commencement parce qu'ils ont des livres d'histoire, l'histoire de l'église, etc. Mais, comme la preuve le montre, c'est une invention de l'Église catholique de Rome, complètement inventée. Très peu connaissent ces faits historiques. Donc, il y a aussi dans la Bible de Jérusalem, vous pouvez lire. Ça, c'est Ratzinger qui l'a dit. Vous voyez ? Bon voilà, je la mets de côté. Quand même, on sait ce qui s'est passé après dans sa vie. Voilà. On connaît tout ça. Voilà pourquoi ils se sont vraiment éloignés de l'église originale de Dieu, de la parole de Dieu. Vous voyez? Ils se sont éloignés. Je continue un peu la lecture ici. Les vrais croyants n'auraient pas dû s'y rendre. Donc Livet avait écrit cet aspect historique. Ils avaient déjà perdu beaucoup de vérité. Et maintenant, ils allaient aussi perdre la compréhension de la divinité et cesser de baptiser dans le nom pour baptiser dans des titres. Mais examinez bien cette doctrine de Balaam. Remarquez qu'il s'agit avant tout de la manœuvre délibérée d'un clergé corrompu visant à lier les personnes à eux en les entraînant volontairement dans le péché et de l'incrédulité. Vous pouvez lire dans Genèse. La doctrine nicolaïte, c'était la corruption du clergé qui cherchait à établir un pouvoir politique en son sein. Tandis que le balaamisme, c'était le fait de soumettre les gens à leur système de credo et de culte pour garder la main sur eux. Vous voyez les deux qui se conjuguent ensemble, les deux systèmes qui vont ensemble, les deux esprits qui sont ensemble. Mais remarquez bien, qu'est-ce qui a lié les gens à l'église de nom, une église de nom nominale, dénominationnelle, et par qui, et qui les a par là même détruits? C'était les credos et les dogmes dont on avait fait des principes d'église. Ils avaient fait des principes d'église. C'était la doctrine de l'Église catholique romaine. On ne leur donnait pas la vraie nourriture, la parole. La nourriture. Donc, ils étaient tous ensemble. Donc, on ne leur donnait pas la vraie nourriture, la parole. La nourriture qu'on leur donnait, c'est celle qui provenait du culte des idoles. Le paganisme de Babylone, affublé de termes chrétiens. Le paganisme de Babylone, affublé, garni de termes chrétiens. Et il y a le même esprit et la même doctrine parmi tous les protestants. Ils l'appellent la dénomination. Eux l'appellent la dénomination religieuse. Le nicolaïsme, c'est l'organisation. C'est d'humaniser la conduite de l'Église et de déposer ainsi l'esprit. Le balaamisme, c'est le mouvement dénominationnel qui remplace la Bible par un manuel d'Église. Et jusqu'à ce jour, beaucoup d'enfants de Dieu restent captifs dans le piège des mouvements dénominationnels. Et Dieu leur crie, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Voyez, ils sont ignorants. Donc, Apocalypse 19. « Mais si l'enlèvement avait lieu maintenant même, l'ignorance ne pourrait en aucun cas être invoquée pour faire appel du jugement que Dieu prononce sur ceux qui sont dans le mauvais clan. » Voilà pourquoi l'esprit dénominationnel a toujours été, pour un vrai prophète qui a l'insigne du Seigneur, qui a la volonté de Dieu, ça a toujours été quelque chose de répugnant, quelque chose qui est vraiment à détruire totalement. C'est vraiment, il faut retirer tout cela, il faut vraiment détruire. Et on a bien compris cela. C'est pour ça que quand on est venu au message de l'heure, je le dis parce que c'est important. Beaucoup, beaucoup comme il n'y avait pas eu un impact avec la parole de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, il est vrai que beaucoup sont venus, beaucoup ont été attirés, mais l'intelligence humaine a pris le devant. Donc la communion profonde qu'il devait avoir avec Dieu, par la révélation, la nouvelle naissance. Donc ils ne sont pas arrivés jusqu'au baptême du Saint-Esprit, ils ne sont pas arrivés jusque-là. Beaucoup sont restés à la connaissance. C'est pour ça qu'on a beaucoup, beaucoup de problèmes, de chaos, et qui sont encore là maintenant. Que Dieu vraiment fasse grâce et bénisse, vous voyez. Je relis. Donc je relis. Donc le nicolaïsme, c'est l'organisation, c'est d'humaniser la conduite de l'Église et de déposer ainsi l'esprit, le bon sens. Mais oui, c'est comme ça, vous voyez, tous ensemble. Et on commence à raisonner avec le cerveau. Mais ça, vous pouvez comprendre que des fois, nous aussi, on est aussi entraînés là-dedans. Parfois, on est un peu entraînés là-dedans, dans ce sens-là. Au lieu de regarder bien attentivement la parole de Dieu, que dit l'Écriture, que dit la parole, parfois on est léger. Et on laisse faire des choses. Et petit à petit, cet esprit, en français on dit grignoter, cet esprit commence à grignoter. Comme un peu la locuste, la sauterelle, il commence à ronger petit à petit. Et alors on commence à sortir à la fin de la volonté de Dieu. Je continue à lire. Et jusqu'à ce jour, beaucoup d'enfants de Dieu restent captifs dans le piège des mouvements dénominationnels et Dieu leur crie « Sortez du milieu d'eux ». Mais voyez, ils sont ignorants. Attention. Attention. Il y en a qui disent « Oh, mais ça fait rien, Dieu sait tout. Dieu connaît l'ignorance. » Donc on dit dans le monde, la justice ne renie pas l'ignorance. Regardez par exemple le riche. Qui dit, ah, envoyez, dit Abraham, qui m'envoie mon frère, dit à mon frère, voyez, mais on lui a répondu, ils ont eu la loi, ils ont eu les prophètes. Donc Dieu, ça veut dire que Dieu a toujours visité son peuple, il n'a jamais eu un seul moment où il a laissé le peuple absent de sa main. Mais, voilà. Donc je continue, on est arrivé à cet âge de l'Église, chapitre 10, page 363. Et on a fini, bientôt. Le fait que le clergé s'organise avec une hiérarchie de subordination dirigée par un président, c'est une manifestation de l'esprit antichrist. Même si, en apparence, c'est une chose merveilleuse et nécessaire. C'est bel et bien mettre le raisonnement humain à la place de la parole. Vous voyez ? C'est grave. Et toute personne qui se trouve dans une dénomination organisée est en plein dans un système antichrist. Mais je tiens à dire ceci, et que ce soit bien clair, je ne suis pas contre les gens, je suis contre le système. Ça, c'est une phrase que le frère Branham disait souvent. Et ça, on a tous compris. Une fois l'Église unie à l'État, la scène est prête pour l'âge des ténèbres. En fait, l'Église restera désormais plongée au milieu un millier d'années dans la profondeur des ténèbres, connaissant les profondeurs de Satan. Dans l'Apocalypse, on l'a lu. Quand des gens religieux adoptent le nicolaïsme en même temps que le balamisme et qu'ils disposent de la puissance financière, du pouvoir politique et de la force physique pour les appuyer, alors il n'y a qu'une seule direction où ils peuvent aller. Imaginez, vous pouvez imaginer ça. Cette direction, c'est tout droit dans la doctrine de Jézabel. Pourquoi dire cela? C'est que Comme nous l'avons montré dans notre étude du quatrième âge, Jézabel était une Sidonienne, fille d'Ethbaal, le grand prêtre d'Astarté. Ethbaal était un assassin. Cette femme épousa Akab, le roi d'Israël, pour des raisons de convenance politique. Ça, vous le trouvez vous-même, dans le roi 18, et dans d'autres endroits aussi de la Bible. Puis, elle s'empara de l'autorité religieuse sur le peuple, fit mettre à mort les Lévites, et fit bâtir des temples où elle attira les gens à venir adorer Astarté, qui est Vénus, et Baal, qui est le dieu soleil. Et c'est elle qui établit l'enseignement, et elle le fit enseigner par ses prêtres. Voyez la femme, elle. Voyez la femme à la position qu'elle a maintenant. Si Dieu permet. Par la suite, nous allons faire une étude sur cet esprit de Jézabel. Donc c'est elle qui établit l'enseignement et elle le fit enseigner par ses prêtres qui, à leur tour, poussèrent les gens à l'accepter. Vous voyez là exactement ce qu'était l'église de nom, l'église dénominationnelle, dans l'église des ténèbres. On avait alors tout abandonné de la parole de Dieu, à part les noms et les titres de la divinité, ainsi que quelques principes bibliques. Ce qu'ils gardaient de la Bible, ils le tordaient en déformant le sens, le peu qui restait. Leur collège d'évêques, etc., écrivirent de longs traités. Leurs papes se déclarèrent infaillibles et dirent qu'ils recevaient la révélation de Dieu et qu'ils parlaient aux gens en tant que Dieu. Vous savez, il y a une ou deux générations en arrière, quand j'étais petit, le prêtre du village dans lequel on était, il avait une telle influence sur les gens que vous connaissez, une telle influence sur les personnes qu'il dominait vraiment, réellement. Il y avait un esprit de dominateur brut. Donc tout ceci était enseigné aux prêtres, qui firent croire cela aux gens par la peur. Croire autre chose signifiait la mort ou bien l'excommunication, qui pouvait être pire que la mort. Croire autre chose, je répète, signifiait la mort ou bien l'excommunication, qui pouvait être pire que la mort. Et ça, c'est vrai. C'était désormais une église à la voix remplie d'assurance qui avait pris le contrôle. Et, ivre de puissance, elle but le sang des martyrs jusqu'à ce que les vrais chrétiens soient presque exterminés et qu'il ne reste presque plus rien de la parole et très peu des manifestations du Saint-Esprit. Apocalypse 17. Donc je vous lis quelques passages. Mais la vraie vigne lutta et parvint à survivre. Dieu était fidèle aux petits troupeaux. Et quoi que Rome ait pu infliger à leur corps, Rome ne pouvait pas tuer l'esprit qui était en eux. Aussi la lumière de la vérité continua à briller, appuyée par le Saint-Esprit et la puissance. Alléluia. Voilà pourquoi la semence de Dieu, c'est l'expression de sa volonté. Comme il a dit, que la lumière soit, c'était la volonté de Dieu. Il a séparé les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Que chaque semence produit selon son espèce. Ça, c'est toujours la volonté de Dieu. Tout. Tout ce qui a été créé. C'est la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu se trouve toujours dans ce petit groupe. Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Alléluia, vous voyez. La puissance se trouve dans ce petit groupe qui fait la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu, et qui accepte ce que l'Esprit Saint La parole dit, je continue cet âge chapitre 10 à la page 364. Il ne faudrait pas manquer de faire ici une observation fort instructive. Voyez les œuvres et les doctrines des Nicolaïtes. La doctrine de Balaam et l'enseignement de la fausse prophétesse Jézabel ne sont pas trois esprits ou trois principes spirituels. Ce ne sont que les trois manifestations du même esprit qui atteint de nouvelles profondeurs. Donc il y a un perfectionnement de la fausseté. Ce n'est que l'esprit antichrist de l'organisation à ces trois degrés différents. Le clergé, après s'être séparé du peuple et avoir formé une organisation, opprima le peuple en le poussant à son tour de l'organisation pour le lier. Cette organisation était fondée sur les credos et les dogmes qu'on enseignait aux gens à la place de la pure parole de Dieu. Les rites et les cérémonies prirent une part de plus en plus importante dans le culte et tout le système devint bientôt une puissance militante et diabolique qui s'efforçait de contrôler tout le monde par la persuasion du discours ou par la force physique. Le seul qui peut vaincre, la seule chose qui peut vaincre sur la terre et qu'il a déjà vaincu, on peut le dire, et vous le savez déjà, vous connaissez la réponse, c'est l'Esprit de Dieu. C'est la parole qui s'accomplit, la promesse qui s'accomplit et dans laquelle les chrétiens marchent. Voilà, c'est ça la vraie Église. L'Antichrist est contre la vraie Église et c'est normal. Donc, il y a des situations qu'on trouve parce que pour briser cette barrière, pour forcer la barrière, une personne, pour forcer cette barrière, il doit vraiment obligé naître de nouveau et recevoir le Saint-Esprit. Et alors, la parole là, peut-être, la barrière peut être forcée. Et on peut le faire nous-mêmes. Voilà où est le sceau de Dieu. Ça peut aussi arriver chez nous. C'est important, vous devez comprendre ça. Et alors là, le diable ne pourra plus séduire personne. On peut avoir des moments de faiblesse, de fragilité, de... La fragilité. Mais un élu ne pourra jamais être séduit. Ainsi dit le Seigneur de la parole de Dieu. Ce système puisait son énergie dans ses fausses prophéties. Vous vous souvenez de l'église pentecôtiste au début? Toutes les fausses prophéties qu'il y avait, qui sortaient. Oh, j'ai vu un cheval blanc. Oh, j'ai vu une lumière. Oh, j'ai vu ceci. Oh, je t'ai vu là. Et tout le monde racontait leur vision erronée. Voilà ce qui s'est passé dans les années passées. Et maintenant, tout cela, à cause de la révélation de Jésus-Christ, tout a été dévoilé. Dieu a dévoilé l'esprit antichrist, où il ne peut plus influencer la vraie Église de Dieu. C'est fini. Ils ne peuvent plus apporter d'influence dans l'Église. Voilà, c'est ça la grande bénédiction que Dieu nous a accordée. Voilà pourquoi le message est venu. Et je termine. Ce système puisait son énergie dans ses fausses prophéties et non dans la parole de Dieu. Il était devenu carrément antichrist, bien qu'il se soit présenté au nom de Christ. Voilà. Amen. Et ici, on a terminé cet aspect historique des âges de l'Église de Livelle. Donc, on a lu aussi tous ces enseignements et aussi l'histoire des âges de l'Église de Livelle. Maintenant, nous allons arrêter ici. Vous voulez continuer? Je pense que c'est bon maintenant. de vous laisser méditer là-dessus. Et comme on l'a dit, que la volonté de Dieu se fasse. La parfaite et merveilleuse volonté de Dieu. Et dans laquelle nous tous, nous devons entrer. Et l'Esprit doit nous aider dans cette direction. Il faut savoir quelle est la volonté de Dieu. Et si on se trompe à gauche, on se trompe à droite, il faut savoir quelle est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu s'appuie sur la parole et sur les promesses de Dieu, uniquement sur la parole et les promesses de Dieu. Voilà comment on peut discerner quand c'est ma propre volonté, mes pensées propres, mon opinion propre, personnelle. Souvent on dit, oh je pense que. Non, tu ne dois pas penser que. Parce que si tu penses que, ça veut dire que c'est ta volonté à toi. Mais si tu dis, le Seigneur dit, ça c'est différent. Amen. Le Seigneur dit, c'est différent. Mais si tu dis, je pense que. Non, c'est toi alors. C'est toi qui mets en avant tes pensées, ta volonté. Mais si on dit, le Seigneur dit dans l'Écriture. Amen. Même le Pharaon a connu la vraie volonté de Dieu. Dieu pouvait immédiatement lui faire comprendre, mais il l'a fait comprendre. Mais il restait dans sa volonté, il voulait rester dans sa propre volonté, jusqu'à ce que Dieu ait dû détruire sa propre volonté. Il a d'abord fait passer le peuple de Dieu d'abord. Il y a beaucoup d'exemples, beaucoup de passages des Écritures où on peut voir cela. Donc, c'est bon, je crois, que l'Église, surtout dans ces derniers temps, qu'elle puisse rester de cette position et qu'il y ait une juste prise de position. Voilà. Malgré tout, j'ajoute ceci. Tous ces enseignements, ces lectures, tous ces extraits, on a lu, ça a béni vraiment nos cœurs, n'est-ce pas? Vous avez reçu une bénédiction. Amen. Donc, il y a eu beaucoup d'utilité là-dedans, à la lecture. En prenant les bons exemples, les justes exemples, Dieu nous inspire à trouver les bons passages des Écritures, Dieu nous permet d'entrer dans le sujet. C'est ça. Et ça, ça a enrichi notre cœur. Ça a enrichi nos âmes. Moi, ça m'a vraiment beaucoup enrichi. Mon cœur a été vraiment enrichi, béni. Surtout quand je vois que le Seigneur bénit aussi. On est tous bénis. Vous voyez? Ça, c'est la chose la plus importante. Voilà pourquoi il ne faut jamais se fatiguer de prier les uns pour les autres, ne jamais se fatiguer de chercher sa volonté, de lui faire plaisir. Non pas aux hommes, mais à Dieu. Parce que si tu veux faire plaisir à Dieu, alors là, ça, tu vas aussi pouvoir aider les hommes. Tout est corrélé ensemble. Que le Seigneur nous aide. Surtout dans cette période très difficile, c'est une période vraiment, un moment très difficile dans lequel nous passons. Je le dis franchement. C'est vraiment difficile de supporter cette situation aussi. Parce que Dieu nous a fait libres. Vous croyez que Dieu nous a fait libres? Rien que dire ça. Il y a tout un éventail d'écriture qui s'ouvre, mais le diable a voulu faire de nous des esclaves. Le diable veut nous soumettre. Mais il n'y arrivera jamais. Il est vrai que toutes les choses coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu. On connaît ces enseignements, mais il est aussi vrai que au diable, nous, on ne va jamais se soumettre, parce que Dieu ne permettra jamais cela. Alléluia. Ça, c'est la vérité. La prochaine fois, nous lirons au chapitre 19, pardon, à la page 19, demandez et répondez. L'Église de Jésus-Christ que Dieu a établie. On va lire un peu là-dedans. 22, 23, 24. Donc il n'y a pas beaucoup. Je pense qu'on va encore rester deux réunions. Deux réunions là-dedans. Maintenant, on a vraiment... Alléluia. Que Dieu bénisse nos cœurs. Amen. Il nous sanctifie. Il est sanctifié. La parole sanctifiée. Le mot sanctifié, c'est important. Ce n'est pas comme l'homme le pense, mais comment Dieu pense. Sanctifié. Pour rendre service à Dieu. Pour honorer Dieu. Alléluia. Moi, je m'arrête. Alléluia. Nous allons prier. Celui qui est fatigué, bien entendu, il peut aller dormir. Mais les autres peuvent rester là. Nous allons prier. Je sais que beaucoup sont fatigués. Franco, il travaille aussi. Je sais qu'il est fatigué. Frère Antonio aussi travaille aussi demain matin. Donc chacun a son horaire. Frère Samuel, je pense qu'il travaille aussi. Il doit aussi se préparer pour demain. Donc ça fait aussi un peu souffrir. Que Dieu nous aide. Que le Dieu l'aide, que Dieu le fortifie. Voilà. Amen. Qui veut bien rendre grâce ce soir? Frère Antonio. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous voulons te remercier parce que c'est vrai que nous vivons des temps difficiles, des temps dans lesquels l'ennemi nous empêche de nous réunir. Mais il est aussi vrai qu'il ne peut pas empêcher la communion qu'il peut avoir avec toi. Toi, le Dieu créateur et sauveur de nos âmes. Cette communion intime, cette communion personnelle. En toi, nous trouvons le refuge. En toi, nous trouvons la force d'aller de l'avant, même en ces temps difficiles. Bénis tous mes frères, bénis toutes mes sœurs, et que dans la souffrance de ne pas pouvoir être ensemble, de ne pas pouvoir se voir, toi, tu nous fais aller au-delà de ce moment difficile. Parce que tu as promis que tu n'enverras pas une épreuve que nous ne pourrons pas supporter. Donne-nous la foi nécessaire. Fais-nous reconnaître le temps dans lequel nous vivons. Et tu exhortes encore ton Église à mettre en pratique ta parole, Seigneur. À se sanctifier à travers l'obéissance à ta parole. Fais-nous grâce, Père Céleste, d'avoir la même foi qui était dans la chambre haute, d'être d'un seul cœur, d'une âme, d'un esprit, d'un seul esprit, d'un seul cœur. Nous te prions que tu puisses conduire nos pas, nos pensées, nos méditations, que tout soit conforme à ta parole et que l'obéissance à ta parole puisse faire de nous des personnes libres de pouvoir glorifier ton nom, de pouvoir sanctifier ton nom à travers les actions transmises, à travers l'obéissance à ta parole. Glorifie ton nom dans nos vies, dans nos maisons. Fortifie-nous dans la foi et dans l'action, selon ta propre volonté. Nous ne voulons pas de volonté permissive, Père Céleste, mais nous voulons faire ta volonté, Seigneur. Fais-nous grâce. Et si tu vois que nous sommes faibles, donne-nous toi la force de pouvoir t'obéir. Parce que nous voulons t'obéir, parce que tu es notre Dieu. Tu es le Dieu d'Israël. Et tu es l'unique vrai Dieu. Fais-nous grâce, Père Céleste. Je te prie, Père Céleste, accompagne-nous encore cette nuit. Bénis-nous tous. Et fais-nous méditer continuellement tes enseignements. Parce que ton enseignement est précieux pour nos âmes, pour notre préparation. Parce que les temps sont devenus courts et tu vas bientôt prendre ton épouse. Seigneur, nous voulons être prêts. Nous ne voulons pas être dans une phase où on est encore en train de nous préparer, mais nous voulons déjà être prêts pour l'enlèvement. Parce que comme ta parole dit, tu viendras comme un voleur dans la nuit. Personne ne connaît ni l'heure ni le jour. Ô Père, fais-nous grâce. Et qu'à tout, à toi soit toute la gloire, l'honneur, la louange. Nous te remercions, Père Céleste. Bénis tes serviteurs, bénis aussi le frère Franck, bénis le frère de Forestieri, bénis-les aussi richement, grandement, que tu puisses les soutenir. Et tous ceux qui sont âgés aussi, que tu puisses les bénir. Tu sais, tu peux toutes choses. Comme tu as fait qu'Abraham, tu l'as fait la promesse, Seigneur. Seigneur, c'est vrai, Père Céleste. Tu as fait grâce et miséricorde. Encore une fois, que tu puisses nous accorder cette grâce d'avoir encore le frère Rostieri. Bénis aussi le frère Franco et tous les autres frères qui sont sur la surface de la terre. Fortifie-les tous. Fortifie-les physiquement et spirituellement. Oui, Père Céleste, parce que ton Église a besoin de tes instruments. Tes instruments qui sont dans tes mains, Seigneur, pour faire avancer ton Église. Fais-nous grâce, Père, et bénis-nous tous ensemble. Il est vrai qu'on ne peut pas se voir physiquement, mais dans l'esprit, comme l'apôtre Paul a dit, dans l'esprit, chacun d'entre nous est l'un avec l'autre ensemble, et lié par l'amour de Christ. Merci, Seigneur, pour toutes choses. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Amen. Dieu vous bénisse tous.